Europe 1, 11h midi. Et si on partait ?
Philippe Googler.
Ah, ça y est, c'est parti. Nous sommes en Argentine aujourd'hui sur Europe 1. Tous les jours, un grand voyage avec mes compagnons de voyage, Nathalie Corré, Didier Ferrat. Et nous sommes au son du tango à Buenos Aires. Et en ligne, une professeure de tango à Buenos Aires, mais une professeure de tango qui enseigne le tango aux Argentins et qui est française. C'est quand même dingue ça.
Cocorico.
Incroyable. Cocorico. Bonjour Élise.
Hola, que tal, hola. Felipe?
Hola.
Comment
est-ce?
Hola.
Dites donc, c'est une prof de tango française à Buenos Aires, c'est un peu comme un boulanger guatémaltèque à Paris. Comment ils vivent ça, les Argentins?
Le parallèle est sympa, oui. Alors, ça surprend toujours un peu, hein, en effet. Mais ils sont surtout, en fait, fascinés par le fait qu'une étrangère s'intéresse autant à leur culture, j'ai l'impression. Ouais. Donc souvent, je donne des cours à des Argentins qui dansent pour la première fois. Et en règle générale, ils me disent après le premier cours, ça alors si on m'avait dit qu'une Française me donnerait mes premiers pas de tango, j'aurais pas cru. Et donc c'est assez rigolo. Mais en fait, il faut savoir aussi que le tango, mine de rien, est quand même assez lié à la France de par son histoire, donc pour plein de raisons. Mais par exemple, et c'est l'exemple le plus illustrant, c'est que Carlos Gardel, le grand chanteur de tango, Carlos Gardel, est né à Toulouse.
Ah, comme vous.
Comme moi, exactement.
Oui, c'est vrai. Alors, pour raconter votre histoire, vous êtes tombée amoureuse à Toulouse du tango, et c'est ça qui vous a donné le goût de l'Argentine, et vous êtes aujourd'hui installée à Buenos Aires depuis 11 ans. Qu'est-ce qui vous a accroché tant à ce pays, à part le tango?
En Argentine, ce qui me plaît particulièrement, déjà, c'est qu'on y trouve une palette de paysages incroyables. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Comme vous l'avez dit juste avant, des chutes d'Iguassu au glacier de la Patagonie, et en passant par évidemment la diversité de la ville de Buenos Aires. Ce qui me plaît énormément chez les Argentins aussi, c'est que par exemple, on va trouver vraiment un peuple qui aime la proximité, comme dans le tango, pour se dire bonjour, c'est des grandes embrassades, même si on s'est vu la veille. Bon, tout ça c'était avant Covid, mais ça reviendra.
Oui.
Et puis aussi, c'est vrai que vivre en Argentine, c'est un peu comme regarder un film.
Ah bon?
Il se passe toujours quelque chose, quoi. Autant socialement qu'économiquement, les Argentins, ils sont tellement habitués à se confronter à des crises et des changements comme ça sociaux, qu'ils savent en fait rebondir, se réinventer et improviser. Et ça, j'adore.
Ouais. Alors pour revenir au tango, qui ressemble visiblement un peu à la vie en Argentine, le tango, c'est plus qu'une danse. C'est quand même une relation particulière à l'autre, où chaque pas s'improvise en fonction de l'autre. C'est un peu comme en amour, en fait.
Oui, c'est un peu comme en amour ou c'est un peu comme dans n'importe quelle relation en fait. Le tango, c'est pour moi, c'est chercher en fait la connexion parfaite avec l'autre pour pouvoir communiquer ce qui se passe dans mon corps pour que l'improvisation soit harmonieuse. C'est ma définition du tango quelque part. Et c'est vrai que ça demande énormément d'empathie en fait. Bon, et de technique, hein, bien sûr. Après, il faut évidemment, ça c'est la prof qui parle, quoi. Ouais, évidemment, on a besoin quand même d'apprendre à marcher ensemble sur la musique, faire les pas au même moment, trouver l'étreinte, l'abrazo le plus confortable, et ensuite seulement essayer de trouver des pas un peu plus complexes, quoi.
Trouver l'étreinte la plus confortable, c'est un joli programme.
Bah oui, puis vous me regardez, ouais. Évidemment.
Non, mais Nathalie, vous avez beaucoup dansé le tango.
Oui, moi j'ai...
Sérieusement?
Bah oui, bien sûr, dans les milongas, Buenos Aires, bien sûr. Moi, je suis une tanguera aussi, également. Mais c'est vrai que ce qui est fou, je trouve, dans le tango, c'est qu'il y a quelque chose de... En fait, on dit qu'il faut se laisser aller dans les bras d'un homme qu'on ne connaît pas.
Ouais.
Et ça ne marche que comme ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment ne rien contrôler. C'est une danse qui est effectivement que les hommes maîtrisent. C'est très difficile plus pour les garçons que pour les filles à apprendre, déjà. Je pense que notre...
Pourquoi?
Mais parce que c'est très technique. Pour les garçons, il y a beaucoup de... En fait, eux, ils drivent un peu la femme. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même du boulot.
Mmh.
Et il y a un truc magique, c'est qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas danser et d'autres avec qui vous dansez, mais en tout confort.
C'est comme un amour.
Mais oui, mais c'est exactement ça. Il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre, d'autres avec qui on s'entend du premier coup. Et moi, le plus beau souvenir de Milonga Buenos Aires, j'ai dansé avec un très très vieux monsieur qui m'arrivait sous le bras. Et mais j'ai un souvenir dingue de la brasse, justement, de l'étreinte qu'on avait. Mmh. Évidemment, pas tombe contre tombe, puisqu'il m'arrivait sous le bras. Mais c'était fou. Et vraiment, il m'a fait danser. Alors, Un tanda, c'est-à-dire quatre danses. Malheureusement, après, il a changé de partenaire. Je suis resté assis sur ma chaise.
Vous l'avez pas séduite ?
Non.
Vous l'avez pas séduite ?
Non. Non. Il a été très poli, mais on n'a fait que quatre et après, il est parti. Mais c'est vrai que c'est assez magique. Hein.
Élise, tout le monde danse à Buenos Aires. C'est vraiment quelque chose d'ordinaire, le tango ?
Alors, malheureusement, non. Tout le monde ne danse pas le tango à Buenos Aires. Mais le tango, c'est pas seulement la danse, en fait, à Buenos Aires. Le tango, c'est... cette odeur, cette ambiance, se lever le matin, discuter avec le vendeur de journaux là, du coin de la rue, boire un maté, manger un tostado et jamón y queso. Enfin, c'est vraiment voilà, le concierge, je sais pas, qui lave le trottoir devant l'immeuble, les discussions un peu agitées autour de la politique, le foot et tout. En fait, on ne danse pas forcément le tango, mais on vit dans un tango quand on habite à Buenos Aires, en fait. On vit à l'intérieur des paroles d'un tango, tout simplement. C'est ça qui est magique.
Vous le dites bien. Il y a un petit côté quand même un peu déchiré, un peu triste dans le tango. C'est une musique qui est arrivée, je crois, par les marins. La tristesse, c'était le désespoir de l'éloignement, de la séparation, etc. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que vous retrouvez aussi au quotidien ?
Oui, alors un petit peu, c'est vrai que c'est le tango, il est né quand même dans les bas-fonds de la ville de Buenos Aires, c'était le quartier de la Boca, le port, hein, le premier port commercial de la ville, et c'était beaucoup, beaucoup d'immigrés en fait, hein, italiens, français, russes, allemands, enfin bon voilà, et c'est un mélange de cultures comme ça, et c'est vrai que c'était quand même, ça reflète quand même la tristesse de la séparation avec les familles, la terre natale, etc. Donc, c'est vrai qu'on retrouve un peu cette nostalgie comme ça en marchant dans les rues de Buenos Aires. Et on va retrouver aussi toutes ces capes d'immigration, toutes ces couches d'immigration que l'Argentine a vu passer.
Est-ce que c'est vrai qu'au départ, ça se dansait entre hommes, entre marins ?
Oui, entre marins.
Ouais. Alors c'est vrai. Alors en fait oui c'est vrai. Donc en fait il faut s'imaginer quand même que Buenos Aires milieu du siècle du 19e siècle, la majorité des gens qui venaient vivre à Buenos Aires pour y travailler, c'était des hommes. Ouais. Donc il y avait environ 75% de la population qui se trouvait dans le port de La Boca qui étaient des hommes. Donc évidemment on a commencé à voir un peu proliférer rapidement plein de ce qu'on appelait les cabarets. Les cabarets, c'était en vrai, c'était des maisons closes, quoi. Mmh. Donc, on y buvait un coup, on y danse, on y joue. Voilà, il y avait plein de choses dans ces cabarets. C'était un peu l'endroit de tous les plaisirs. Mais du coup, pour aller danser avec les femmes dans les cabarets, eh ben, il fallait quand même s'entraîner avant. Donc, en fait, les hommes dansaient entre eux pour s'entraîner. Ce n'était pas forcément une danse qui se dansait entre hommes parce qu'ils voulaient danser entre hommes, mais parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix, quoi.
Ah, d'accord. C'était à la fois pour s'entraîner, mais aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes disponibles ?
Exactement, ouais. Exactement.
D'accord. Oh là là, vous êtes passionnante. Restez avec nous, Élise Barbeau, oui. Continue à explorer l'Argentine avec vous dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, 11h midi, et si on partait ?
Philippe Googler.
Et nous sommes toujours en Argentine sur Europe 1, entre 11h et midi, avec Nathalie Corré, avec Didier Ferra, mes compagnons de voyage, et puis surtout avec Élise Barbeau, qui a réussi à être prof de tango à Buenos Aires, tout en étant française, ça n'est pas de ça. J'arrêterai pas de le répéter. Élise, vous êtes en ligne avec nous. Buenos Aires, c'est une ville assez étonnante. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu européen. On a l'impression d'aller dans les rues de Madrid. Hein.
Ah oui.
Et puis, en même temps, il y a un petit côté désuet. C'est-à-dire que dans les restos, il y a une petite nappe blanche. Vous avez le serveur avec la petite veste un peu serrée. Un petit peu à l'ancienne. Qui je trouve est pleine de charme. Vous avez le même regard, vous ?
Oui, alors c'est vrai que c'est comme si en fait c'était un c'est comme si Buenos Aires c'était plusieurs capitales européennes mais qui se seraient arrêtées dans le temps, dans les années 60, dans les années 70, c'est un peu ça, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu ça et il y a ce côté un peu désuet dans les bars, dans les restaurants parce qu'en effet par exemple un serveur, c'est pas comme nous, on peut trouver en Europe où on est serveur, c'est des petits boulots, ou alors... vraiment, eux, ils font leur carrière dans un seul et même restaurant pendant des années. Et puis, les serveurs, ils sont en général très âgés. Puis, l'âge de la retraite en Argentine est assez élevé. Donc, des fois, ils sont très âgés, les serveurs. Donc, on est dans un vieux restaurant avec un bar en bois, comme ça, avec des tables en bois. Et c'est un vieux monsieur qui vient vous servir votre café. C'est un peu hors du temps. C'est vraiment sympa. C'est rigolo.
Oui, c'est vraiment une ambiance qu'on ne retrouve pas ici en Europe. Et il y a alors, en Argentine, quelque chose qu'il faut dire, c'est que dans ces restos, on mange de la viande. Et si vous aimez les légumes en Argentine, vous êtes vraiment, vraiment mal parti. C'est très difficile de trouver des légumes en Argentine. Hein.
Oui, alors la viande, c'est vrai que c'est culturel. C'est comme le tango, c'est culturel. On mange de la viande dès qu'il y a quelque chose à fêter.
Ouais.
Ou pas d'ailleurs, hein. Oui. On mange de la viande tout le temps.
Tout le temps.
Mais alors, on peut manger en effet de la viande au restaurant, mais la manière la plus traditionnelle de manger de la viande, quand même, c'est d'être invité à un asado.
Ah
donc
oui,
c'est
ah
la version
ah
argentine oui. du barbecue. Donc en général, c'est l'habitant, hein, donc on s'y rejoint le dimanche vers midi, puis le temps de faire le feu, de faire cuire la viande, de discuter, d'ouvrir une bouteille de Malbec, il est déjà 15h,
ouais.
Et puis on peut y rester jusqu'à la tombée de la nuit, si on a une guitare sous le bras, ben un peu de guitare,
ouais.
Un peu de danse, voilà, c'est vraiment, en fait, c'est souvent associé quand même la viande à une festivité. Du coup, ils en profitent pour faire la fête souvent et manger de la viande souvent.
Didier,
et c'est vrai qu'on n'a pas, on n'accompagne pas la viande avec beaucoup de légumes.
Non.
C'est de la viande avec de la viande.
C'est de la viande avec de la viande. Et si on veut des légumes, c'est une petite salade éventuellement en entrée, mais vraiment toujours pareil.
Des chimichurri avec. Ouais.
Et ce qui est amusant, c'est que même lors d'un mariage, par exemple, on s'attend à avoir un repas peut-être plus sophistiqué, etc. Eh ben non, on mange de la viande aussi au barbecue,
ouais,
etc. Même s'il y a plein de manières de le préparer, c'est quand même le plat national, même lors des grandes occasions.
Et puis, il faut se repérer sur la carte parce que c'est pas du tout coupé comme chez nous, la viande.
Ouais.
Et les morceaux, en fait, correspondent pas. Quand vous, par exemple, le buffet des chorizo, que je suis sûr vous adorez, vous, bah, vous ne trouverez pas de chorizo dedans, hein. C'est un faux filet, vous voyez, par
mais
exemple.
Mais c'est pas les mêmes noms,
non.
Oui, c'est
eh ben
vrai.
Non,
c'est
non,
vrai.
Alors,
pas de la même
déjà,
manière.
La langue est déjà un peu plus compliqué parce qu'il y a un accent, je pense qu'Élise, vous êtes totalement habitué à cet accent qui est quand même très particulier. L'accent argentin par rapport à l'espagnol, c'est quand même un autre truc.
Vous avez un exemple à nous donner de la différence d'accent, Élise ?
Ben oui, tout à fait. Ben en fait, le double L et le Y se prononcent che, donc la calle, la rue, par exemple, c'est la cache.
Ah, la cache.
Et oui, quand vous vous dites par exemple Yo me llamo Philippe, ouais. Là c'est Yo me llamo Philippe.
Yo me llamo Philippe.
Yo me llamo Philippe.
Alors Yo me llamo Philippe, ça veut dire je m'appelle Philippe.
En espagnol.
Et Yo me llamo. Ah oui, ça n'a rien à
en
voir.
En argentin, voilà.
Ah,
et oui,
dingue.
C'est pour ça que je vous préviens, vous, parce que sinon vous allez chercher le chameau partout.
Alors, Élise, je rappelle que vous avez vécu également plusieurs années en Patagonie, ce qui représente quand même un tiers de l'Argentine. Et alors, rien que prononcer ce nom-là, on voyage. C'est un endroit incroyable, avec déjà un sentiment de solitude et d'isolement absolu. Et puis surtout des glaciers, quand ils fondent et qu'ils s'effondrent dans l'eau, ça fait des vacarmes, des fracas incroyables. Ça vous impressionne aussi ?
Bah, le glacier, moi, le glacier Perito Moreno, je pourrais en parler des heures, qui est mon glacier préféré, on va dire.
Mmh.
Et c'est un glacier qui se trouve à l'intérieur du parc national Los Glaciares, qui est aux abords de la ville de Calafate.
Ouais.
C'est le glacier qu'on peut voir de plus près, en fait. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus grand, mais c'est le plus impressionnant puisqu'on peut le voir de près.
Ouais.
Et c'est impressionnant. Bon, c'est un glacier qui mesure 200 km², déjà, pour avoir une idée, c'est la taille de la ville de Buenos Aires, hein, intramuros. Donc
ouais.
C'est quand même très, très gros. Et la première fois qu'on est face à ce glacier, je crois qu'on remet en question beaucoup de choses quant à notre existence.
Oui, parce qu'on se sent tout petit, tout petit, tout petit. Et surtout, on peut aller naviguer à proximité de ces glaciers, parce qu'ils sont au-dessus de l'eau, et il y a des craquements incroyables. Ils sont effrayants, en fait.
C'est effrayant, un énorme morceau qui se détache et qui tombe de l'eau. On dirait que ça va au ralenti, tellement c'est gros, tellement c'est impressionnant, c'est... impossible de ne pas avoir la larme à l'œil, c'est vraiment,
ouais.
Vraiment incroyable.
Ouais. Didier ?
Ah oui, je trouve ça très impressionnant, cette couleur aussi très spécifique, hein, ce bleu très intense, non, c'est vraiment un des plus beaux paysages, surtout les plus impressionnants qu'on puisse voir.
Et alors, pourquoi est-ce que la Patagonie, en dehors des glaciers, fascine autant, Élise, d'après vous ? Pourquoi c'est aussi réputé ?
Je pense que c'est un territoire qui est, déjà comme vous l'avez dit, c'est immense, et c'est... c'est très désertique, en fait. En dehors des points importants à visiter ou des villes importantes, c'est que de la steppe. Donc, c'est de la steppe et de la steppe à perte de vue.
Mmh.
Et en fait, encore une fois, c'est être face à cette grandeur-là et à cette immensité, ça donne à réfléchir et puis ça fait méditer. Et puis vraiment, c'est un paysage qu'on ne peut pas trouver en Europe. En Europe, tout est trop peuplé, je dirais, pour pouvoir se confronter à ces immensités-là.
Mmh.
Donc c'est incroyable, c'est ça qui est fou.
C'est un rapport à la solitude qui est très particulier. Si un jour on a envie de se retrouver seul, de s'isoler, je vous conseille la Patagonie. C'est juste incroyable. Et il y a des gens comme ça. J'ai vu une sorte d'ermite qui vivait comme ça, tout seul, avec une petite cabane sur une espèce de lande fouettée par le vent. Mais il n'y avait personne. Et c'est quelqu'un qui cherchait la solitude comme ça. C'était très, très troublant. Didier ?
Ah oui, alors c'est vraiment le sentiment d'être loin de tout. Par exemple, Ushuaia, c'est pas une ville fantastique en soi, ouais, mais on a l'impression d'être tellement au bout du monde. Et il y a quelque chose d'assez drôle, c'est la seule ville où ça m'est arrivé, c'est qu'on vous tamponne votre vrai passeport avec un tampon Ushuaia, ouais, comme si c'était un pays, comme si c'était un lieu absolument magique. J'ai trouvé ça incroyable.
Élise Barbeau, vous racontez super bien l'Argentine. On a envie de partir apprendre le tango avec vous à Buenos Aires.
Eh bien, je vous attends.
Mais on est très mauvais, ça va, à part Nathalie, qui est excellente.
Non, ben vous, il faut vous y mettre.
Moi, je suis très mauvais. Très mauvais.
Allez, on se fait un abraço déjà.
Merci beaucoup, Élise Barbeau, de nous avoir emmenés en voyage. Et puis, bon vent en Argentine. Dans un